Boulon manquant, votre rendez-vous neurosciences. L'émission dans laquelle nos neurones roulent des mécaniques. Un jeudi par mois, à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
L'article du jour s'intitule « Social interaction in mice suppresses breast cancer progression via a cortico-amygdala neural circuit » ou « Comment l'interaction sociale chez les souris bloque la progression du cancer du sein. » Cet article est paru dans la revue Neuron le 15 octobre 2025. Chère tête bien faite, bonsoir et bienvenue au Boulon manquant. L'actrice Jane Fonda en 2010, la mannequin Carla Bruni en 2019, l'actrice Brigitte Bardot en 1984 et la chanteuse Jessie J en 2025. À leur date respective, toutes ces femmes ont été diagnostiquées de la même maladie, le cancer du sein. Peu importe l'organe touché, le cancer est synonyme de danger, de douleur et d'incertitude. Les traitements peuvent varier, car les cancers sont des maladies très diverses, mais le pronostic du patient dépend aussi d'autres facteurs, comme les ressources économiques ou le niveau d'éducation. Depuis les années 90, de nombreuses études ont identifié le soutien de l'entourage comme un facteur protecteur, en particulier en cas de cancer du sein. L'expérience nous l'apprend, être bien entouré peut changer la trajectoire de notre vie, en particulier quand nous traversons une période difficile. Maintenant, qu'est-ce que le soutien des pairs provoque dans notre physiologie qui favorise la rémission face à une maladie grave ? Notre cerveau à des régions dédiées au traitement des interactions sociales, qui communiquent avec d'autres régions spécialisées dans la gestion des émotions, notamment le stress. Or, le stress et l'anxiété affectent notre physiologie à grande échelle. Notre cœur s'accélère, nos réserves d'énergie sont plus mobilisées, nous sommes plus alertes. Des émotions nécessaires en cas de danger ponctuel, donc, délétères quand elles deviennent chroniques. Dans le cas du cancer, et notamment du sein, ce cercle vicieux est d'autant plus accentué par la noradrénaline, l'un des neurotransmetteurs libérés en cas de stress. C'est cette molécule qui accélère le rythme cardiaque, mais elle favorise aussi la croissance tumorale. L'effet délétère des émotions négatives, comme l'anxiété ou la dépression, sur la rémission des patients cancéreux est avéré. Celui des interactions sociales, qui peuvent être appréciées très différemment d'un individu à l'autre, reste à éclaircir. Alors, est-ce que l'effet protecteur du soutien social n'est qu'un corollaire de la peste de stress et d'anxiété qu'il engendre ? Obtiendrait-on les mêmes résultats avec des traitements psychologiques ? C'est ce qu'ont tenté de déterminer des chercheurs de l'Université médicale de l'armée à Chongqing, en Chine. Après avoir inoculé une tumeur mammaire chez des souris, ils ont découvert un mécanisme neurologique induit par l'interaction sociale qui ralentit la croissance de la tumeur. Explorons ça de plus près. Étape 1. Préparer l'enquête. Pour établir l'effet spécifique de l'interaction sociale, il faut comparer l'anxiété ressentie et l'évolution de la tumeur dans différents contextes. Par exemple, est-ce que la durée journalière d'interaction sociale a une incidence ? Observe-t-on les mêmes résultats lorsque la souris est placée seule dans un environnement riche en activité, afin de réduire son stress sans congénère ? Les réponses à ces questions seront déterminantes pour le protocole de l'étude. Des souris saines, élevées par deux dans une même cage, ont été réparties en deux groupes. Le premier a reçu une injection de cellules tumorales spécifiques au cancer mammaire de la souris. Après inoculation, chacune de ces souris malades a été soit placée dans une cage avec sa congénère saine, soit maintenue en isolation pendant 24 jours. Les souris accompagnées l'étaient chaque jour pendant 1 heure, 2 heures ou 24 heures sur 24. Dans chaque cas de figure, le niveau d'anxiété de la souris malade a été évalué par trois tests d'exploration. Dans le premier, elle peut explorer deux boîtes, l'une sombre et l'autre éclairée. Dans le deuxième test, elle est placée sur un terrain carré ouvert. Dans le troisième, elle est placée dans un labyrinthe en forme de croix, avec deux bras ouverts sur l'extérieur et deux bras cloisonnés par de hautes parois. Plus une souris est anxieuse, plus elle aura tendance à rester dans la boîte sombre, dans un seul coin du terrain carré et dans les bras fermés du labyrinthe. Les résultats de ces tests ont montré une nette amélioration de l'anxiété lorsque la souris malade était accompagnée, par rapport à quand elle reste seule. L'effet positif de l'interaction sociale était très similaire entre les trois durées journalières, ce qui indique que la durée de l'interaction n'a pas d'incidence sur l'anxiété. Ces observations concordent avec celles sur la tumeur en elle-même. 15 jours après l'inoculation, la tumeur est significativement moins grosse dans les trois groupes avec interaction par rapport à celui où la souris est isolée. Une différence se constate déjà à 12 jours quand l'interaction sociale dure au moins 2 heures. Quant à sa concentration en noradrénaline, le neurotransmetteur du stress, elle était également plus faible dans les trois groupes avec interaction, sans différence notable entre eux. Et quand la souris est dans un environnement enrichi alors ? On entend par là que sa cage est aménagée avec des jouets pour la stimuler. Eh bien, les souris placées pendant une heure par jour dans un environnement enrichi ne présentent aucune différence avec le groupe en isolation contrôle. C'est donc bien le fait d'être avec une autre souris qui diminue l'anxiété de la souris atteinte d'un cancer mammaire. La noradrénaline étant le lien direct entre anxiété et croissance de la tumeur, la baisse de sa concentration indique qu'il existe un mécanisme neurologique induit par l'interaction sociale et qui contribue à ralentir la progression de la maladie. Étape 2. Portrait des suspects. Le cortex singulaire antérieur, ou CCA, est une structure analogue entre la souris et l'humain. Le CCA humain ressemble à un petit pied de biche placé autour du corps calleux, l'espace qui connecte les deux hémisphères. Chez les deux espèces, il joue un rôle crucial dans l'interprétation des comportements des congénères, que ce soit sur le plan rationnel ou émotionnel. En cela, le CCA régule l'empathie. Il interagit avec des structures différentes selon l'information à traiter. Si une souris témoin perçoit de la peur chez une autre souris, c'est l'activation de l'amygdale par le CCA qui induit la peur chez la témoin. L'amygdale est une autre structure analogue qui fait partie du système limbique, un ensemble de régions qui contrôlent la gestion des émotions, le comportement et la mémoire. L'amygdale est particulièrement connue pour son implication dans le stress, l'anxiété et la dépression. Une électrode placée dans le CCA de la souris malade, confirme que le contact avec une autre souris enclenche une hausse immédiate de son activité. D'accord, mais ça ne suffit pas pour affirmer que le CCA est à l'origine de l'effet bénéfique de l'interaction sociale sur la tumeur. Pour cela, il faudrait pouvoir contrôler l'activation du CCA avec et sans congénère. Et si je vous disais qu'un virus allait nous y aider ? Je vous rassure, il ne s'agit pas d'inoculer un virus entier et actif à des souris déjà malades. Depuis les années 1980, la communauté scientifique a développé des vecteurs issus du virus adéno-associé, ou virus AA, un petit virus à ADN non pathogène qui infecte les mammifères. Ce qui a inspiré la création des vecteurs AAV, c'est la capacité de ce virus à infecter des tissus très divers du corps humain sans induire de fortes réactions immunitaires qui pourraient tuer les cellules infectées. En remplaçant une partie de son matériel génétique par une molécule d'ADN synthétique, portant par exemple la copie saine d'un gène défectueux chez un patient, on peut cibler le ou les tissus touchés par la maladie et leur faire produire la copie saine. C'est le principe de la thérapie génique. nos chercheurs élaborent deux combinaisons de vecteurs. Dans la première, le vecteur d'intérêt porte un gène inhibiteur de l'activité neuronale. Dans la seconde, ce vecteur porte un gène activateur de l'activité neuronale. L'expression du gène dans le vecteur d'intérêt dépend de deux autres vecteurs qui contiennent des points de contrôle. Entre les deux groupes de souris qui ont reçu le gène activateur ou inhibiteur, ces deux vecteurs contrôle garantissent que ce gène était exprimé exactement dans les mêmes neurones. Ici, il s'agit des neurones activés par l'interaction sociale et sensibles au glutamate, un neurotransmetteur comme la noradrénaline. Ce sont ces neurones qui peuvent transmettre l'information traitée par le CCA vers d'autres régions. Nous verrons un peu plus tard pourquoi les points de contrôle ont été répartis entre deux vecteurs au lieu d'être rassemblés sur un seul. Les gènes activateurs et inhibiteurs de l'activité neuronale n'ont pas été choisis au hasard. Même en étant exprimés correctement, tous deux n'ont d'effet que si les souris reçoivent une molécule appelée CNO. Donc, grâce à leur construction moléculaire, l'équipe de chercheurs peut, par une simple injection de CNO, inhiber l'activité des neurones cibles, même en présence d'une autre souris, ou les stimuler, même quand la souris malade est seule. Ils ont ensuite comparé les souris accompagnées, avec et sans inhibition du CCA d'un côté, et les souris seules, avec et sans stimulation du CCA de l'autre. Résultat, la perte d'activité du CCA augmente le niveau d'anxiété des souris malades accompagnées, ainsi que le taux de noradrénaline de leur tumeur. Comme on pouvait s'y attendre, leur tumeur a cru davantage. À l'inverse, une activation du CCA chez les malades isolés a diminué leur anxiété, ainsi que le taux de noradrénaline et la vitesse de croissance de leur tumeur. On peut donc confirmer que dans le cortex singulaire antérieur des souris, les neurones qui réagissent à l'interaction sociale sont bien à l'origine des effets anxiolytiques et antitumoraux de cette dernière. Avec ces premières expériences, nous avons une vue d'ensemble du protocole de l'étude. D'abord, les tests comportementaux pour mesurer l'anxiété, combinés à la mesure du taux de la noradrénaline dans la tumeur, permettent de confirmer le lien direct entre l'accompagnement des souris, leur baisse d'anxiété et la croissance ralentie de la tumeur dans chaque condition. Puis, le contrôle de l'activité des neurones effecteurs du CCA par simple injection, grâce à l'ingénieuse combinaison de trois vecteurs inspirés de virus, a permis d'observer ce qu'il se passe lorsqu'on les empêche de réagir à l'interaction avec une autre souris, ou lorsqu'au contraire, on les stimule artificiellement chez des souris seules. Nous savons désormais que les neurones effecteurs du cortex singulaire antérieur, ou CCA, sont nécessaires et suffisants pour induire les effets bénéfiques de l'interaction sociale sur le cancer mammaire. Maintenant, essayons de comprendre par quel mécanisme ces neurones interviennent.
Boulot manquant sur Radio Campus Paris.
Étape 3. Le cerveau de l'opération. Je vous le disais plus tôt, le CCA, ou cortex cingulo-antérieur, interagit entre autres avec l'amygdale pour réguler le stress et l'anxiété, en fonction des émotions perçues chez un autre individu. Il est donc très probable que ce soit par sa régulation de l'amygdale que le CCA réduit à la fois l'anxiété et la croissance de la tumeur. Comment le prouver ? Je vous disais tout à l'heure que pour contrôler son activité, nos chercheurs ont mis au point un système de trois vecteurs. Un pour exprimer le gène activateur ou inhibiteur, et deux autres vecteurs pour contrôler l'expression du premier. Ces trois vecteurs doivent être réunis dans le même neurone pour agir. Si on injecte un virus dans un neurone, on peut s'attendre à ce qu'il infecte les neurones communicants. Donc, pour vérifier que l'interaction CCA-amygdale est bien responsable des effets antitumoraux et anxiolytiques de l'interaction sociale, on pourrait injecter 2 vecteurs sur 3 dans le CCA et le 3e dans l'amygdale. Ainsi, seuls les neurones du CCA qui communiquent avec l'amygdale pourront contenir les 3 vecteurs et être contrôlés par le système d'injection. On recommence donc l'étape précédente selon ce nouveau protocole. Une fois que les 3 vecteurs ont été répartis entre le CCA et l'amygdale, les souris malades sont soit maintenues en isolation, soit au contact d'une congénère pendant 1 heure par jour. Pour les souris isolées, on compare celles dont on a réactivé les neurones du CCA communiquant avec l'amygdale avec celles qui ont une injection contrôle. Pour les souris accompagnées, on compare ce qu'il se passe quand ces mêmes neurones sont inhibés ou non. Vous l'avez peut-être deviné, les résultats sont les mêmes. Réactiver artificiellement les neurones du CCA qui communiquent avec l'amygdale suffit à reproduire les effets de l'interaction sociale chez les souris seules. À l'inverse, les inhiber chez les souris accompagnées entraînent une hausse de l'anxiété et une croissance plus rapide de la tumeur. Le mécanisme à l'œuvre se précise. Lorsqu'une souris amie est présente, le CCA perçoit peut-être sa tentative de rassurer la souris malade. Les neurones chargés de transmettre les instructions du CCA à l'amygdale s'activent et l'amygdale réduit la production de noradrénaline. La souris s'apaise. La tumeur ne reçoit plus le neurotransmetteur qui favorise sa croissance. Chez ces souris, les chercheurs ont constaté que les cellules tumorales prolifèrent moins et meurent davantage. Évidemment, l'histoire n'est pas complète si on ne comprend pas ce qu'il se passe dans la tumeur lorsqu'il n'y a plus de noradrénaline. Étape 4. Dis-moi où vit ta tumeur. À la fin de la dernière expérience sur la stimulation artificielle de neurones communiquant avec l'amygdale, la composition des tumeurs a été analysée. L'objectif était de comprendre dans quel environnement elles évoluent, selon que le CCA a été activé ou non. Pour se maintenir, la tumeur ne doit pas être attaquée par le système immunitaire. En manipulant les cellules immunitaires à proximité, elle peut se créer un micro-environnement immunosuppresseur. Comprendre ce qui caractérise ce micro-environnement est un enjeu majeur dans la recherche contre le cancer, car en plus de protéger les cellules cancéreuses du système immunitaire, il peut favoriser leur prolifération et saper l'efficacité des traitements. En analysant la nature des cellules immunitaires présentes autour de la tumeur et les gènes qu'elles expriment, on peut déterminer si elle est plutôt attaquée ou protégée. Les chercheurs ont observé une grande différence dans la composition du micro-environnement entre les souris qui ont été artificiellement stimulées et celles qui ne l'ont pas été. Dans le premier cas, les tumeurs comprennent plus de lymphocytes, qui participent activement à l'élimination des cellules tumorales, et moins de macrophages, qui favorisent l'inflammation. Les macrophages peuvent contribuer au micro-environnement immunosuppresseur en bloquant l'action des lymphocytes et en produisant des facteurs de croissance. Une tumeur peut aussi empêcher la maturation des cellules parentes des macrophages. Encore plus que les macrophages, ces cellules immatures vont activement promouvoir la croissance de la tumeur en inhibant le système immunitaire, mais aussi en recrutant des vaisseaux sanguins. Une vascularisation plus dense favorise la migration des cellules tumorales à travers l'organisme, causant des métastases. Lorsque le CCA est réactivé, la tumeur comprend moins de cellules immunitaires immatures. Non seulement la nature des cellules immunitaires est différente, mais leur profil moléculaire aussi. Le séquençage des lymphocytes indique qu'ils expriment davantage de gènes liés à leur maturation et à leur activation. En d'autres termes, leur comportement change. Ils sont plus agressifs face à la tumeur. Pour parachever leur étude, notre équipe de chercheurs a testé leur découverte chez une lignée de souris naturellement prédisposée à développer un cancer mammaire. Dans ce modèle, la tumeur évolue d'une manière similaire à celle du cancer du sein chez les humains. On retrouve dans son micro-environnement immunosuppresseur les mêmes cellules que dans celui des souris inoculées avec une tumeur. Avec le protocole de stimulation artificielle du cortex cingulo-antérieur, les cellules immunosuppressives sont moins abondantes, tandis que les cellules antitumorales gagnent du terrain. Ils ont donc réussi à stimuler indirectement le système immunitaire dans un contexte d'apparition spontanée du cancer mammaire. Le système nerveux est un centre de contrôle à toutes les étapes de la vie. Pendant le développement embryonnaire, il guide la formation des organes et des membres. À l'âge adulte, il régule nos fonctions vitales et notre pensée. Mais les neurosciences, comme les autres domaines de la recherche en biologie, sont encore assez compartimentées. Le lien entre le microbiote intestinal et notre cerveau n'est vraiment étudié que depuis les années 2010, par exemple. On le sait instinctivement, être bien entouré favorise la guérison. Grâce à ces expériences, nous avons une explication plus concrète sur le lien entre la socialisation, les émotions et la résilience physiologique. Si répliquer l'étude d'aujourd'hui serait impossible chez l'humain, on peut envisager des traitements psychologiques, ou peut-être même une stimulation cérébrale qui viendrait en complément du traitement contre le cancer. Il serait aussi intéressant de mener des études similaires sur d'autres maladies, en particulier celles impliquant un système immunitaire défaillant. À l'écoute de cet épisode, certains et certaines auront sûrement pensé « Pauvre souris !» La souris est un modèle très utilisé en recherche, car elle regroupe plusieurs caractéristiques avantageuses. Elle se reproduit très facilement, se développe assez vite, tout en présentant beaucoup d'analogies avec les humains. La communauté de chercheurs réunis autour de ce modèle a construit de nombreux outils moléculaires très versatiles. On peut modifier son ADN, changer sa physiologie sur des régions très délimitées grâce aux vecteurs viraux, et relier les observations cellulaires et moléculaires directement à sa cognition. Les souffrances animales engendrées par ces recherches sont prises en compte de la conception du protocole expérimental jusqu'à la présentation des résultats. En Europe, la directive 2010/63/UE impose à chaque projet nécessitant des animaux d'appliquer la règle des 3 R. Réduire le nombre d'animaux et d'expériences, raffiner les expériences pour engendrer le moins de souffrances possible, remplacer, si possible, par des modèles moins sensibles. En France, chaque établissement utilisateur doit disposer d'une structure chargée du bien-être des animaux, qui répond à un comité d'éthique en expérimentation animale à chaque étape du projet. Les efforts pour uniformiser les pratiques à travers le monde depuis les années 60 ont porté leurs fruits, mais tous les pays n'imposent pas de réglementation éthique. Je ne suis pas sûre, par exemple, qu'isoler des souris pendant 24 jours aurait été accepté en France. En plus de l'enjeu moral, cela engendre des inégalités entre les organismes de recherche à l'international. Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous passer entièrement de modèles animaux pour la recherche, en particulier en cancérologie, où toute la physiologie, comme on a pu le voir, peut se trouver affectée. Les cultures cellulaires, les cellules souches et les organoïdes permettent de reproduire de mieux en mieux les environnements complexes de nos organes, mais ils restent restreints dans leur contexte d'utilisation. On s'en sert notamment en médecine pour personnaliser les traitements en les testant directement sur les cellules des patients. Des établissements comme l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques travaillent à développer des modèles synthétiques pour réduire leur recours aux animaux. Enfin, il existe bien sûr la modélisation informatique, de plus en plus utilisée en neurosciences pour expérimenter sur des données humaines. Dans une étude parue en juin dans la revue Science Advances, des chercheurs de l'université de Stanford ont créé un jumeau numérique à des enfants ayant des difficultés dans l'apprentissage des maths. En modifiant les paramètres neuronaux de ce jumeau, ils ont découvert un lien direct entre excitabilité neuronale et difficulté d'apprentissage. Si toutes ces modalités n'auraient pas permis de faire une découverte comme celle de l'article du jour, il n'est pas impossible que l'on puisse les combiner dans quelques années pour étudier ce genre de mécanisme très multimodal. Voilà peut-être un nouveau champ de recherche prometteur. Je laisse vos neurones échanger sur le sujet en attendant le prochain épisode.
C'était Boulot Manquant. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode sur Radio Campus Paris 93.9 FM.